Paul Bourget, le fils. Chapitre 1. Madame Légier s'était réveillée bien émue ce jour-là, qui devait marquer une grande date dans sa vie de veuve et de mère. Il y avait précisément 2 années qu'elle avait, à 33 ans, perdu son mari, enlevé tout jeune par une pleurésie foudroyante à une carrière d'avocat d'affaires qui promettait d'être magnifique. Il y avait 6 semaines qu'un camarade de collège du mort, Georges Foucault, avocat comme lui et son rival au barreau, mais un rival fraternel, avait osé dire à la jeune femme « Il y a bien longtemps, madame, que j'ai pour vous un sentiment dont je n'ai compris la vraie nature qu'après la disparition de notre pauvre Pierre, et quand vous avez été libre, je crois vous avoir prouvé mon respect, mon culte pour vous, non seulement par ce silence alors, mais depuis. À cause de vous, je peux vous l'avouer maintenant, je n'ai rien mis dans ma vie. Vous avez, vous, à votre âge, le droit, le devoir presque, de refaire la vôtre. Ce n'est pas être infidèle au passé que de le traiter comme le passé, avec une piété émue qui n'empêche pas d'accepter le présent et de regarder l'avenir. » Puis-je espérer, madame, que si jamais vous vous décidez à recommencer une autre existence, vous penserez que vous avez auprès de vous un ami dévoué, sincère, dont le plus doux rêve serait de se consacrer tout entier à vous? Ah, madame, je vous aime. C'est la première fois que je me permets de sentir tout haut devant vous. Vous n'avez qu'un mot à prononcer, ce sera la dernière. Mais ne le prononcez pas sans m'avoir fait le crédit de réfléchir. Une affection vraie, comme celle que je vous porte, est pourtant quelque chose. Ne la repoussez pas tout de suite. Refaire ma vie, avait reparti Madame Légier, la voix tremblante, les yeux baissés. La demande de Foucault venait de la remuer jusque dans ses fibres les plus intimes. Elle ne voulait pas y répondre directement, incapable de prononcer ce mot de refus dont il venait de conjurer la menace, incapable aussi de dire le « oui » qu'il implorait sur le champ et dès la première minute. « Refaire ma vie » avait-elle répété. Puis, le regardant d'un beau regard droit et pourtant déjà triste, « Mais ma vie n'est plus à refaire. Vous parliez de droit, de devoir. Je ne connais qu'un droit, celui que mes enfants ont sur moi. Qu'un devoir, celui que j'ai envers eux. » Et ne savez-vous pas qu'eux aussi, je les aime, vos 3 enfants, avait repris Foucault. Et qui pourrait remplacer leur père auprès d'eux, sinon le compagnon de sa jeunesse qu'il a le mieux connu, qui sait le mieux ses idées, ses goûts, ce qu'il aurait désiré pour sa fille et ses fils? Ne le sentez-vous pas vous-même, Catherine? Fallait-il que l'évidente émotion de Madame Légier révélât le secret consentement de son cœur pour qu'il l'appelât de ce prénom, dans les syllabes duquel avait passé tout son respect et tout son amour? De ses 2 mains, il avait saisi les mains tremblantes qui ne s'étaient pas retirées, et son accent s'était fait plus tendre encore, plus passionné, pour implorer. « Voulez-vous me permettre de le remplacer, ce père? Voulez-vous être ma femme? « Laissez-moi » avait-elle gémi en trouvant cette fois la force de se dégager. Et avec douleur, « Ne me dites plus rien. En me parlant, vous venez de me faire trop mal. Je ne sais plus, je ne comprends plus, je n'y vois pas clair en moi. Ne m'en veuillez pas, avait-elle continué, bouleversée par l'expression du visage de Foucault. Je vous fais souffrir, ce n'est pas ma faute. Je vous répète qu'en ce moment, je ne me comprends pas. Plus tard, nous reprendrons cette conversation. Maintenant, je ne peux pas. « J'attendrai votre réponse tant que vous voudrez », avait répondu Georges. Puis, démentant aussitôt sa propre promesse et reprenant ses petits doigts de femme dont la fièvre était un aveu, il avait dit, avec cette insistance tendre des amoureux qui devinent que leur audace ne déplaît point, « Si vous ne me répondez pas non dès à présent, c'est que vous entrevoyez cependant une possibilité de me répondre oui. C'est que vous hésitez. Cette hésitation m'est très douce par un côté. » Être incertain, c'est espérer. Elle m'est très dure par un autre. Être incertain, c'est craindre aussi, et quand on n'est plus tout jeune, ces craintes-là usent tant le cœur. Il avait montré, en prononçant ces mots, sa tempe encore brune. La 40e année y mettait déjà quelques fils d'argent, et Madame Ligier avait pu lire, dans ses prunelles noires, cet ardent reproche de l'homme qui commence à mesurer sa part de bonheur ici-bas et qui sait que les joies perdues ne se remplacent point. « Oui, avait-il continué, je l'attendrai, cette réponse, et tant que vous voudrez. Mais cette attente me sera dure. Ce serait une charité de fixer une limite à ce martyr. J'aurai la force de tout supporter si je peux avoir devant moi une date fixe, un point vers lequel marcher en me disant « ce jour-là, je saurai ». Catherine, choisissez-la vous-même, cette date, qu'elle soit aussi lointaine qu'il vous conviendra. D'ici là, je m'engage à ne plus vous parler de ce projet qui sera cependant mon unique pensée. Vous voyez comme je vous suis soumis. Vous, en retour, soyez bonne. Donnez-moi une date. Quand me répondrez-vous ? Eh bien, avait balbutié Madame Ligier d'une voix plus étouffée. Quand mon deuil sera fini, tout à fait fini, alors je vous répondrai. Pas avant, et puisque vous me dites que vous m'aimez, tenez votre parole, et tout de suite, comme je tiendrai la mienne. N'insistez plus. Foucault avait compris qu'elle était vraie, vraie dans cet engagement de lui répondre, vraie dans son remords de s'abandonner à des rêves d'avenir, lorsqu'elle n'avait qu'à se regarder dans la glace, pour que le noir de sa toilette évoquât aussitôt le passé. Il avait donc obéi à cette supplication, non sans avoir tenté d'enlever tout équivoque à cette promesse, en énonçant un chiffre. « Alors, ce sera dans 6 semaines, le 16 avril, avait-il dit. » Catherine avait incliné la tête et un silence était tombé entre eux. C'était un 15 avril, 22 mois auparavant, que Pierre Ligier avait été emporté par la mort. C'était le 17 que l'enterrement avait eu lieu et que le cercueil avait quitté ce même appartement. L'amoureux n'avait pu se retenir de faire en penser un calcul dont il avait senti la cruauté à peine échappé ses mots. Une impression identique avait saisi la veuve. Hélas, continuer de vivre, simplement, c'est toujours trahir un peu les morts. J'ai pourtant été ton ami, tu as pourtant été ma femme. Cette plainte, le fantôme de Marie, évoquée soudain par ce rappel inconsciemment féroce du jour de son agonie, aurait pu la jeter comme un reproche à ces deux êtres, si loyaux tant qu'il avait vécu. Il ne vivait plus et il venait, lui, de tenir, elle, d'écouter des propos d'amour dont la réalisation était certes permise. Ensuite, l'absence serait plus absente encore, plus abîmée dans l'irrévocable néant. Les 6 semaines avaient passé et cette impression d'un fantôme, tout à coup dressée entre l'ancien ami et l'ancienne épouse, n'était pas revenue empoisonner leur tête-à-tête, devenue quasi quotidien. Georges avait eu la prudence de ne plus jamais se permettre la plus légère allusion à cet entretien solennel, ni à sa chère espérance. Il avait eu la délicatesse, à l'approche du 15 avril, de quitter Paris, en sorte que Madame Ligier avait pu rendre à la mémoire du père de ses enfants les pieux devoirs imposés par cet anniversaire, sans qu'aucun remords se mélangeât à un attendrissement ému, mais déjà si différent de la détresse d'après la catastrophe. Le 16, un billet de Foucault était arrivé, annonçant son retour et sa visite pour le lendemain. Catherine avait lu et relu ce message, encore discret. Entre les lignes, ses 12 yeux bleus avaient deviné une nouvelle imploration, si respectueuse toujours et si pressante. Elle avait, d'un geste involontaire et qui l'avait surprise elle-même, porté à ses lèvres ce papier que cette écriture rendait vivant pour elle, comme une personne. Elle avait dit tout haut « Oui, ce sera oui, c'est oui ». Pourquoi donc se réveillait-elle dans cette matinée du 17, si troublée, si frémissante ? Que s'était-il donc passé entre le moment où sa bouche se posait ainsi sur ce billet de Foucault et celui où, accoudée sur l'oreiller de son lit, elle regardait, avec des prunelles fixes que la flamme joyeuse de l'espérance n'éclairait plus ? Quand sa femme de chambre avait tiré les rideaux et ouvert les volets, un flot de lumière gaie avait envahi l'appartement. Il était situé rue Vaneau et les fenêtres donnaient sur cet immense jardin de l'ambassade d'Autriche qui va de la rue de Varennes à celle de Babylone. L'azur du ciel brillait. Les oiseaux chantaient. le renouveau des choses s'harmonisait si bien à la situation où se trouvait la jeune femme qu'il semblait que tout son être dût s'épanouir. La robe même, de nuances claires, que la camériste avait apportée, l'invitait à des pensées heureuses. Pourquoi son front s'assombrissait-il à mesure que l'aiguille avançait sur le cadran de la pendule? Pourquoi demeurait-elle à songer, au lieu de se lever, comme si elle eût eu peur de ce que cette journée allait lui apporter de redoutable et d'inconnu? 2. Quand Madame Ligier avait parlé de ses devoirs envers ses enfants, elle n'avait pas tout dit à l'homme qui lui demandait si tendrement, si sérieusement aussi, de remplacer auprès d'eux leur père. Elle ne lui avait pas confessé qu'un de ses enfants, l'aîné, Charles, était pour elle, depuis des mois, le principe d'une appréhension qui touchait sans cesse à la douleur. Jamais le fils et la mère n'avaient échangé une seule parole au sujet de Georges Foucault. Celui-ci tutoyait ce grand garçon qu'il avait vu naître, comme il tutoyait le petit frère, René, et la petite sœur, Hélène. Mais, tandis que les 5 ans du garçonnet et les 10 ans de la fillette répondirent à cette affection de l'ami du père mort avec une simplicité de sympathie où il n'y avait place pour aucune ombre, les 16 ans de Charles gardaient un je ne sais quoi d'impénétrable et d'hostile dont Foucault paraissait ne pas s'apercevoir. Tout au contraire, il avait, ces derniers temps, redoublé de sollicitude affectueuse envers cet adolescent taciturne et pâle. Madame Ligier avait bien remarqué ce procédé de Georges à l'égard de son fils. Elle lui en avait su gré, mais en y voyant un signe de plus que son instinct ne la trompait pas. Et par cette gaie matinée de ce jour d'avril, le jour de ses fiançailles, déjà certaine dans sa pensée, le discours qu'elle se prononçait mentalement n'était qu'une prise et une reprise de cette même idée. Comment annoncerait-elle à son fils ce mariage avec Foucault ? « J'aurais dû lui en parler depuis ces 6 semaines, le sonder. Je n'ai pas pu. Devant lui, c'est comme avec son père auquel il ressemble tant. Je me sens nouée, paralysée. Georges a pourtant raison. » Qu'elle appelât cet homme ainsi dans son cœur, c'était bien la preuve qu'elle l'aimait. Oui, elle l'aimait d'un de ces demi-sentiments, hélas, qui sont les plus douloureux. Ils ont assez de force pour que les combattre nous soient un supplice, pas assez pour que tout cède à leur ivresse souveraine. Et elle continuait. « Oui, Georges a raison. Je ne prends rien à celui qui n'est plus. Je ne prends rien à ces enfants qu'il m'a laissés, puisque Georges les aime. Les deux petits sentiront cela tout naïvement. Charles aussi, quand il aura réfléchi. » En ce moment, il a cette intransigeance des êtres jeunes qui croient que l'on peut s'immobiliser dans le passé. On ne peut pas. Ah, j'ai eu tort de ne pas lui parler hier. Mais nous étions allés au cimetière. Nous venions de mettre des fleurs sur la tombe de son père. Comme il l'aimait. C'est vrai qu'il est devenu un homme, d'un instant à l'autre, par miracle. Dans un éclair, elle aperçut dans son souvenir le lit où reposait son mari mort. Elle n'aurait eu qu'à ouvrir la porte pour le revoir réellement dans la chambre qui communiquait avec la sienne. Elle revit le fils aîné, debout, à côté, tenant les mains des 2 autres orphelins. Un pli se creusait sur son jeune front qui ne s'était pas effacé depuis ses 2 ans. Une résolution s'était fixée autour de ses lèvres précocement graves qui n'avaient plus jamais ri de ce rire insouciant, privilège heureux de son âge. Certainement, il avait fait, devant ce lit funèbre, un vœu qui expliquait son assiduité à ses devoirs, l'effort visible de son travail. Dans la classe qu'il suivait au lycée Saint-Louis, son rang était monté de mois en mois. Il était dans les tout premiers maintenant. Sans aucun doute, il avait pris avec sa conscience l'engagement de remplacer auprès des siens le protecteur disparu, d'être le chef du foyer découronné. Comment la mère n'eût-elle pas été touchée de ce naïf roman familial deviné chez son enfant? Comment la femme, qui projetait de donner un autre chef à ce foyer, n'eût-elle pas été épouvantée à se rappeler cette mâle ferveur du premier-né? Et, à l'instant de la résolution suprême, elle luttait contre cette épouvante. En quoi l'entrée dans notre maison d'un homme de cœur contredirait-elle cette résolution de Charles s'il l'a vraiment prise? C'est dans l'intérêt de son frère et de sa sœur qu'il souhaite si passionnément de devenir quelqu'un. Il semble donc lui-même qu'il leur faut quelqu'un. Ce quelqu'un, je le leur donne en leur donnant Georges pour second père. C'est trop hésité. Tout à l'heure, quand il rentrera du collège, il voudra m'embrasser comme chaque matin. Je lui parlerai, je me jure de lui parler. » Le temps avait passé à travers ce va-et-vient de ses idées et l'aiguille allait marquer 10 heures. Encore 50 minutes et Charles, qui sortait du lycée à 10h30, serait là. Encore 4 heures et Georges Foucault apparaîtrait à son tour. Comme il arrive dans ces moments de désarroi intime où les très petites résolutions trompent l'attente, Madame Ligier se fit honte à elle-même de sa paresse. Elle commença à vaquer à sa toilette avec autant de diligence que si elle eût été pressée par une obligation impérieuse. Elle achevait de passer à son cou la chaîne à laquelle était attachée sa montre et à ses poignets ses bracelets abandonnés depuis 2 ans, lorsqu'un coup frappé à la porte lui fit battre le cœur en lui annonçant la présence de celui qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de considérer comme un juge. Et cependant, elle n'était pas coupable. C'était Charles, en effet, qui s'arrêta une seconde, comme saisi, la porte ouverte, au lieu d'entrer. « Qu'as-tu ? » lui demanda-t-elle, toute anxieuse, devant l'expression soudain altérée de son visage. « Rien, » répondit-il. « Sur le moment, j'ai été étonné. Je suis si habitué à vous voir en noir. Mais, c'est vrai, notre deuil est fini. » Involontairement, la mère se regarda dans la grande glace. Elle vit sa silhouette d'un gris tendre et clair, si joliment harmonisée à ses cheveux blonds, et, par contraste, le costume toujours sévèrement sombre du collégien. Sa voix tremblait pour lui répondre, détournant aussitôt la conversation. « Es-tu content de ton professeur ce matin ? Comment était ton devoir ?» Et, tout bas, elle se disait « J'attendrai encore un peu. Il a été trop ému de me voir ainsi. Après le déjeuner, il sera encore temps. » 3. Ce qu'il y a de particulièrement poignant dans les drames domestiques, c'est qu'ils se déroulent parmi des occupations si simples, si paisibles, dans un décor tout d'habitude, à travers cette monotonie des choses que l'argot bourgeois définit par cette expression vulgaire, mais qu'elle est exacte, le train-train de l'existence. Bien que l'avocat eût laissé derrière lui, grâce à 2 replacements et à une grosse assurance, une fortune considérable, Madame Ligier ne s'était jamais départie, pas plus depuis son veuvage qu'auparavant, de cette surveillance méthodique de sa maison, traditionnelle dans la classe moyenne française. Tout angoissée qu'elle fût par la perspective de cet entretien avec son fils, maintenant impossible à remettre, elle avait, suivant sa coutume, aussitôt sortie de sa chambre à coucher, commencé de circuler de pièce en pièce, rangeant elle-même dans le salon un bibelot déplacé, soulevant de ses doigts fins les feuilles des plantes vertes pour vérifier leur arrosement, donnant d'un geste attentif un meilleur pli à un rideau. Elle revenait ainsi par la salle à manger où le domestique achevait de mettre le couvert. Depuis ces 2 ans que le chef de famille était mort, la place qu'il occupait à table était toujours restée vide. Ça avait été, d'abord, une espèce de piété toute naturelle, et comme, dans les premiers temps, Madame Ligier ne recevait que des parents très proches, ce rite de deuil s'était maintenu sans difficulté. Elle avait voulu l'interrompre quand elle avait eu à dîner quelques amis, et ça avait été une occasion d'une petite scène avec son fils Charles, justement. Il lui en avait parlé le premier, la veille du jour où ce dîner bien intime devait avoir lieu, lui prouvant ainsi l'obsession de sa pensée. Comme pauvre papa aurait été content, demain, lui qui aimait tant ses amis. Mais je suis sûr qu'il voit de là-haut que nous ne touchons pas à sa place et que cela le console un peu. C'est comme s'il ne nous avait pas quittés. » La mère n'avait rien répondu et la contagion de ce scrupule l'avait empêchée de saisir une occasion tout indiquée pour modifier une habitude qui décelait une exaltation dans le regret, très différente de ses véritables sentiments. Elle avait donné l'ordre que le siège du mort ne fût pas occupé à ce premier dîner. Quel prétexte trouver ensuite ? Comment interrompre une tradition évidemment de plus en plus sainte pour l'enfant et de plus en plus pénible pour la mère à mesure que l'image de Foucault s'insinuait davantage dans son cœur ? Mais ce matin, et à si peu de distance de ces nouvelles fiançailles, auxquelles elle continuait d'être résolue, l'aspect de ce fauteuil posé devant la nappe blanche lui fut soudain intolérable, d'une manière toute physique. Cette disposition des couverts sur la table, avec ce vide, à l'endroit où le mort s'asseyait autrefois, lui fut un reproche muet, contre lequel elle trouva tout à coup en elle la force qu'elle allait être obligée d'avoir, dans quelques instants, contre les reproches parlés de son fils. Dans un de ces élans de volonté spontanés et presque irréfléchis, qui sont, dans l'ordre moral, l'équivalent des réflexes dans l'ordre animal, elle dit au domestique « Louis, vous ne mettrez plus, dorénavant, le fauteuil de monsieur à table. Vous y mettrez mademoiselle Monneron. » Elle n'eut pas plutôt donné cet ordre qu'elle sortit de la pièce, du pas rapide, d'une personne qui vient de faire une exécution nécessaire et trop douloureuse, pour y rentrer toute tremblante, une demi-heure plus tard, avec mademoiselle Monneron, l'institutrice, Hélène, René et Charles. De quel visage celui-ci allait-il accepter ce petit coup d'état, exécuté par la mère ? Oui, bien petit, mais gros, de quelle signification ? C'était la première scène de l'acte final, celui qui clorait le veuvage de Madame Ligier. Elle le sentait si bien qu'elle se tenait volontairement en arrière, caressant de ses mains frémissantes les anneaux blonds des cheveux de son petit René. Charles s'arrête. Il regarde à la table. Il regarde sa mère. Il est devenu tout pâle, puis tout rouge. Madame Ligier le voit, avec un étonnement qui lui met à elle-même le sang aux joues, se diriger vers la chaise, mise à la place autrefois réservée au père. Elle n'a pas le courage de lui répéter, à lui, la phrase qu'elle a dite au domestique, ni d'installer par ce second coup d'état l'institutrice sur ce siège, en face d'elle, le siège du chef, et qui revient de droit à l'aîné. Un détail redouble sa confusion. En prenant de sa main le dossier de la chaise afin de l'écarter pour s'y asseoir, Charles lui a jeté un regard d'une tendresse passionnée. Il a des larmes au bord des yeux qui ne viennent ni de l'indignation ni de la colère. C'est la reconnaissance qui l'émeut ainsi. Mais de quoi ? De ce qu'il imagine sans soupçonner la réalité. Il ne remarque pas la surprise du domestique qui consulte du regard sa maîtresse. Il ne fait pas attention que la serviette qu'il déploie n'est pas la sienne. Il croit que sa mère lui a donné cette place à table avec une intention dans laquelle il voit une réponse à ses doutes les plus intimes. À peine s'il peut manger, tant son cœur palpite, tant sa gorge est serrée. La mère non plus ne peut pas manger. Ce malentendu, provoqué par elle-même, lui apparaît comme une sorte de fatalité, presque une défense du destin. Elle appréhende et elle désire tout à la fois la fin de ce repas et les paroles que va lui dire Charles, qu'elle devine, qu'elle lit sur ses lèvres. Le déjeuner finit. Il ne s'explique pas encore. Le jeune homme attend que l'institutrice ait emmené son frère et sa sœur. Enfin, mademoiselle Monneron et les deux enfants sont partis. La mère et l'aîné sont seuls. Charles prend Madame Ligier dans ses bras et il lui dit, avec des pleurs qu'il ne cherche plus à réprimer et qui mouillent de leur tiède humidité le visage de la pauvre femme, « Oh, merci, maman, merci encore !»« Mais de quoi » dit-elle. « Oui, » répond-il sans lui laisser le temps de continuer. « Merci de m'avoir donné cette place de mon père à table aujourd'hui que nous sortons du deuil. Vous ne savez pas quel bien vous m'avez fait, maman !» Ah, il faut que je vous parle en toute franchise, insiste-t-il. Depuis quelque temps, j'avais si peur. Oh, pardonne-moi! Et dans ce passage du vous au tu, le violent garçon mettait la sauvage ardeur de sa religion filiale, rassuré, hélas, par une équivoque. Oui, j'avais peur, peur qu'un jour l'idée ne te vînt, tu ne m'en voudras pas si je te dis tout, puisque ce cauchemar est fini, de te remarier. Tu es si jeune, si belle, et j'ai vu trois des mères de mes camarades, cette année, leur donner un second père. Alors, quand tu m'as mis là, tout à l'heure, en face de toi, à table, j'ai compris que tu avais lu en moi. Tu as voulu me dire, remplace-le vis-à-vis de ta sœur, de ton frère, de moi. Le remplacer, lui, si intelligent, si bon, si généreux, je ne pourrais pas. Mais je te jure d'essayer. Et tandis que l'adolescent, si réservé d'habitude, découvrait ainsi, dans un transport de gratitude, la plaie secrète de son cœur, ce culte idolâtre pour son père mort, cette terreur qu'un étranger s'insinuât au foyer, la mère sentait comme un froid de glace se répandre dans ses veines. L'éclair d'une affreuse évidence lui dévoilait tout l'avenir. Si elle cédait à la passion que le charme épanoui de ses 35 ans avait inspirée à Georges Foucault, si, dans quelques minutes, elle répondait oui à sa demande, elle brisait pour toujours avec son fils. Jamais cet enfant, aux sentiments trop intenses, et pour qui son père demeurait si vivant, n'admettrait l'intrusion du second mari. L'inévitable conflit était comme symbolisé dans cet humble incident de la place à table. La mère devrait, si elle passait outre à cette révolte de son fils, asseoir le nouveau venu au repas, en face d'elle, dans ce fauteuil dont Charles s'était emparé avec une si frémissante ferveur pour la mémoire de l'ancien occupant. Elle éprouva soudain qu'il lui serait impossible de supporter les yeux du jeune homme, expulsé de ce siège qui était de droit le sien, puisqu'il était l'aîné, l'héritier du nom et digne de l'être. À ce moment, et comme elle se débattait, déchirée ainsi entre l'avenir et le passé, entre ses aspirations de femme amoureuse et ses tendresses de mère, un coup de sonnette, deviné plutôt que perçu à travers les portes, la fit se détacher des bras de son fils qu'elle tenait étroitement serré contre son sein. Elle ne s'était pas trompée. Quelques secondes plus tard, le domestique venait demander si madame pouvait recevoir M. Georges Foucault. Charles esquissa le geste de se retirer avec une brusquerie qui, à elle seule, était un aveu. « Reste !» lui dit Madame Ligier en lui prenant le bras, impérieusement et douloureusement. Puis, s'adressant au domestique, « Dites à M. Foucault qu'il m'est absolument impossible de le recevoir et que je lui écrirai. » Et quand son fils et elle furent de nouveau seuls, « Non !» gémit-elle en l'embrassant de nouveau avec emportement, « je ne me remarierai jamais. Je ne vous donnerai pas un autre père. Je ne veux pas que tu souffres par moi. » « Je ne le veux pas. Vous me suffisez et je vous suffirai. » Quoique les fibres les plus secrètes de son être lui fissent bien mal, elle n'avait jamais ressenti une joie plus profonde. À voir les yeux de son fils pendant qu'elle lui parlait, elle se rendait compte que l'instinct de cet enfant avait tout compris.